entreprises en forte croissance, des projets de développement à l'international ou encore des projets de consolidation. Selon le ministère, ce financement doit permettre d'assurer le développement sur le moyen et long terme des entreprises françaises rentables de la filière musicale.
Merci Marie, puis on se retrouve demain pour d'autres actualités culturelles. En attendant, il est 13h et vous êtes sur France Culture.
Les midis de culture. Marie Laborie.
Il a le beau rôle, lui, Ulysse qui guerroie à Troie, qui vint par la ruse et qui court les mers. Il lui arrive quelques bricoles, c'est vrai, en cours de route, mais enfin, il a fait un beau voyage. Pendant ce temps, Pénélope, elle tisse et elle attend. Moi, enfant, je voulais être Ulysse. Hein. Être Pénélope, ça m'a jamais traversé l'esprit. On la connaît mal, cette Pénélope. On l'aime sûrement mal aussi. Mon invité s'est glissé dans la peau de cette femme qui nous parle à travers les siècles. Elle est à l'affiche de le retour d'Ulysse. Juliette Binoche est dans les midis aujourd'hui. Je vous laisse tousser.
Pardon, bonjour. Excusez-moi, bonjour.
Bonjour Juliette Binoche, bienvenue dans les midis de culture.
Merci.
Vous l'aimez bien, vous, Pénélope quand...
Oui, moi je rêvais de me marier un jour, d'avoir des enfants et tout, et en fait je suis devenue plus Ulysse que Pénélope.
Oui, mais, c'est ça en fait.
Mais petite, je rêvais d'être, fonder une famille, être mariée, etc. Mais ça n'a pas été ça, vraiment.
Alors on va revenir bien sûr sur ce film tout au long de cette émission, mais d'abord quand même, il y a à peine plus de 3 semaines hein, que le Festival de Cannes a fermer ses portes, on a l'impression que c'est très loin, je sais pas vous, mais moi oui. Mais quand même, vous présidiez cette 78e édition, votre jury a décerné la Palme d'Or à Jafar Panahi, le cinéaste iranien, qui est rentré ensuite dans son pays, et son pays est désormais sous les bombes. C'est assez vertigineux, non ?
Oui, c'est affligeant, on sait pas où on va, mais on va très mal.
Mmh. Vous avez pas de contact avec Jafar Panahi ?
Non.
Vous avez été heureuse de cette palme ?
Très heureuse, oui, très heureuse. Très heureuse de pouvoir le consacrer. C'est la plus haute récompense qu'on puisse donner à un cinéaste. Et j'étais très heureuse que ce soit lui. Parce que 15 ans avant, j'étais à Cannes et il était alors en prison. Il faisait une grève de la faim. Et de pouvoir de voir 15 ans après qu'il est sur scène et il a la plus belle récompense, c'était une grande joie pour tout le monde, pour tous les Iraniens, je pense aussi.
Vous l'aviez beaucoup soutenu, effectivement, il y a 15 ans à l'époque.
J'avais
il était en grève de la faim, il n'avait pas pu venir, évidemment. Mais,
ouais. Oui, j'avais pris son nom parce qu'il était, il faisait partie du jury d'une façon invisible, puisqu'il il pouvait pas être là avec le jury, évidemment, puisqu'il était en prison. Mais j'avais demandé à Gilles Jacob, qui était le directeur à l'époque de Cannes, si je pouvais parler de Jafar, qui était en prison. Et donc, j'ai attrapé son nom en vol, sur le siège, le fauteuil vide. Et j'ai parlé de lui. Et on a eu la chance, en fait, que 3 jours après, il ait été libéré de prison. Et ça, c'est... Et tout d'un coup, de le voir en vrai, en chair et en os, c'était important.
On pense à lui, évidemment. L'action du film dans lequel vous jouez et dont vous venez nous parler aujourd'hui, Abo, elle, se déroulait il y a des centaines d'années avant Jésus-Christ. Il nous parle encore beaucoup, elle résonne encore très fort, cette histoire. C'est The Return, le retour d'Ulysse, à la réalisation Umberto Pasolini, et c'est donc adapté évidemment de l'Odyssée d'Homère. Et c'est donc la dernière partie qu'il a choisi de montrer, celle où Ulysse revient à Ithaque après 20 ans d'errance. Vous incarnez donc cette fameuse Pénélope qui l'a attendue, et le comédien britannique Ralph Fiennes est Ulysse. Alors c'est vrai que cette histoire, nous on a l'impression qu'on la connaît tous, mais peut-être qu'on la connaît mal. C'est un texte que vous connaissiez, l'Odyssée ?
Pas vraiment, non. Même si j'avais fait brièvement 2 années de grec à un moment donné au collège, c'est vrai que j'ai lu les livres, le retour d'Ulysse à mes enfants, parce que ça fait vraiment partie des classiques qu'on lit à ses enfants, surtout quand on a un garçon, mais pas seulement. Mais j'avais jamais lu vraiment dans le texte les chants, les chants de l'Odyssée. Et il y a une très belle traduction que Ralph Fiennes m'a offerte, qui est celle d'Emily Wilson. Et je suis vraiment rentrée dedans facilement, même si on n'a pas besoin d'un très très bon anglais pour rentrer dedans. Mais en français, je ne sais pas quelles sont les traductions les meilleures.
Voilà. Moi non plus, je ne saurais dire. Uberto Pasolini, le réalisateur, a choisi de faire un film... on va dire presque naturaliste, il n'y a pas d'effet, les décors sont naturels, les lumières sont quasiment naturel également. En fait, on a juste des hommes sur une île, enfin des hommes et une femme sur une île qui attendent le retour d'un roi et qui sont plutôt dans une extrême pauvreté ou une extrême détresse ou une inquiétude très forte. Qu'est-ce que cette approche, à votre avis, a apporté au mythe, cette approche comme ça, presque simple en fait, hein,
de cette histoire. C'est le retour vers la famille, hein, et je crois que c'est un thème qui travaillait beaucoup de notre réalisateur, parce que je pense que après une séparation avec sa femme, donc il y avait cette envie chez lui d'être dans ces questions existentielles de pourquoi la famille et voilà les désirs profonds que font d'une famille aussi. Cette histoire-là permet d'être dans ces questions-là, finalement, parce qu'il y a le mari qui revient vers la femme Pénélope, mais il y a aussi le fils Télémaque qui lui ne connaît pas son père, qui a envie de partir, et il y a une colère entrée, il y a une détresse aussi que ces personnages traversent, avec beaucoup d'espoir aussi. Donc, ce sont des thèmes finalement très humains, avec cette fin d'épopée et ces archétypes, parce que ces personnages sont des vrais archétypes que nous avons dans notre structure humaine, et c'est intéressant toujours de s'y confronter et de se les réapproprier quelque part, de revivre cette histoire avec nos façons différentes de voir. Pénélope dans le film, elle n'est pas la Pénélope de Irène Papas voilà, c'est une Pénélope qui est plus moderne, qui est en résistance, qui est en révolte, qui évidemment elle est rusée.
Ouais, elle est maligne, oui.
Elle est maligne, ouais, parce que finalement c'est de sa décision que le roi va revenir avec cette histoire de d'arc, mais elle est aussi il y a le personnage de Antinous qui la voit et qui voit sa ruse, donc elle est aussi piégée. Enfin bon, c'est toute une espèce de mécaniques de relations qui sont voilà jouées dans le film et qui sont présentées dans le film.
Alors cette Pénélope, moi je vous propose qu'on en parle un peu plus et qu'on en entende un peu plus sur elle, parce que il y a eu beaucoup d'avis sur Pénélope, sur effectivement est-elle rusée, est-elle cette femme qui attend. On a fait un petit montage, c'est pas moi qui l'ai fait d'ailleurs, c'est notre réalisatrice Louise André, on écoute ça.
Elle attend, elle attend, elle attend. Quoi d'autre? Ah oui, elle tisse.
La légendaire Pénélope, le symbole éternel de la fidélité.
Depuis l'Odyssée, Pénélope est devenue une caricature.
Je n'ai plus que chagrin, tant le ciel me tourmente. Le seul regret d'Ulysse me fait fondre le cœur.
Une patience longue et exemplaire. Un modèle enviable de vertu pour beaucoup d'hommes mariés.
Et c'est un vrai personnage, vous voyez, c'est pas un héros schématique comme dans l'Iliade, ces héros qui sont l'incarnation d'une vertu, la bravoure, la ruse, etc. Et elle est une femme au cœur d'un système d'échanges matrimoniaux caractéristique de son monde.
Donc une femme, je dirais, dont le kléos, la gloire, est justement d'être restée dans la mémoire de tous comme celle justement qui était parfaitement fidèle.
Mais elle est parcourue de désirs contradictoires. Elle a le devoir de rester fidèle à Ulysse. Tant qu'elle n'est pas sûre d'être veuve, elle n'est pas la femme vertueuse ensevelie dans son chagrin, vous savez. Non, elle n'est pas insensible au charme de ces jeunes gens qui la courtisent.
Ce personnage-là, finalement, est sans doute plus complexe. Et c'est Suzanne Saïd qui, je trouve, a une jolie formule. Elle dit que, finalement, Pénélope, ce serait comme une espèce de test de Rorschach. On aurait du mal, finalement, à interpréter quel rôle elle joue.
Si je publie des noms, combien de Pénélope passeront illico pour de fiefées salopes? Combien de bons amis me regarderont de travers? Combien je recevrai de coups de revolver? Tempête de la renommée, vous êtes bien mal embouché.
Voilà, Pénélope, toutes les facettes de Pénélope. Merci à Louise André qui nous a fait ça ce matin, c'est super. Alors bon, vous avez choisi quelle Pénélope, Julia Binoche?
En tout cas, parce que vous savez, il y a différentes interprétations, il y a différentes histoires. parallèle hein, de ce retour d'Ulysse. Et il y a dans une des versions une Pénélope qui s'ouvre à ses désirs aussi. Hein. Il y a dans la relation avec Antinous, c'est assez trouble.
Donc c'est un des prétendants. Hein.
Un des prétendants, oui, c'est ça. Et finalement, il a Uberto Pasolini, qui a vraiment travaillé sur le scénario avec Edouard Bond et d'autres, il a voulu montrer cette Pénélope qui est un peu différente, qui n'est pas cette droiture, cette fidélité implacable, mais la rend beaucoup plus humaine et poreuse à toutes les possibilités, mais à la fois, elle fait une résistante, elle est tenace et elle fait face à la violence de son fils aussi. Hein. Mm-hmm. Et puis
une possession aussi voulue par son fils, c'est-à-dire qu'il fait partie des hommes qui veulent la maîtriser aussi.
Oui, en tout cas, il est tellement malheureux de voir qu'il risque. Les prétendants veulent le tuer quand même, donc il est très très mal à l'aise, il veut partir et à la fois il veut rester parce qu'il veut pas laisser sa mère seule. Enfin, c'est toutes ces questionnements de familiaux qui en fait jonchent ce film et nous rendent plus humains finalement. Mmh.
Est-ce que vous avez besoin d'ailleurs de comprendre complètement un personnage pour l'interpréter ? Est-ce que ça vous va d'avoir un personnage qui peut vous résister un petit peu en tant que comédienne ?
Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, un rôle qui me résiste.
C'est-à-dire que vous n'arrivez pas... Enfin, peut-être que vous pouvez renoncer à comprendre complètement. Ou est-ce que, au contraire...
Non, il y a une... C'est pas une compréhension intellectuelle. Ouais. C'est de sentir ce qui se passe en elle et d'aller à la racine de là où ça prend. Mmh. Et parallèlement, dans sa propre vie, on doit faire ce parallèle-là pour que ça s'incarne d'une façon... spontanée, vraie, cellulaire presque. Mmh. Mais non, il y a des questionnements et c'est souvent en haut de la question qu'on a un bout de quelque chose de vrai parce que ça se place à un autre niveau quand on joue en fait parce que oui, on se sert des mots d'une certaine rationalité mais c'est un autre cerveau qui se met en branle quand on joue. Donc c'est relié en fait ces deux mondes-là, hein, le monde du savoir hein, de et un autre monde qui est celui plus d'une certaine connaissance d'autre chose, qui est pas forcément, qui est indicible, qui est perceptible.
Et puis c'est aussi de l'empathie finalement pour le sentiment humain, on va dire.
Oui, et même quand les personnages font des trucs atroces.
Oui.
Il y a de ça, c'est trouver l'humanité, parce qu'en nous on a tout. Aussi, hein, on est des tueurs, des tueuses. On a ça, donc il faut aller à la racine de ça et ce que ça provoque et comment on le comprend quand même, mais.
Ouais. Dans le film, là, le retour d'Ulysse, on disait tout à l'heure que c'était un film où il n'y avait pas énormément d'effets, que c'était un film voilà, presque en décor naturel et en lumière naturelle, ce qui suppose donc qu'en tant qu'interprète, vous et Ralph Fiennes et tous les autres, tout repose sur vous, en tout cas beaucoup sur vous, sur vos incarnations, sur vos visages, oui. Sur vos corps, c'est très important là.
Oui, oui parce que c'est comme... On doit être nu face à des textes pareils, face à des situations pareilles et des personnages archétypales. Il y a une nudité à, ça se passe à l'intérieur de soi, dans les yeux, dans notre présence et dans ce qu'on partage. Et aussi dans l'écriture, hein, c'est une écriture qui est dénué de psychologie quelque mm-hmm. part et donc il y a cette je sais pas comment décrire ça, c'est une matière qui doit être vivante parce qu'on l'incarne nous acteurs mais à la fois qui est comme une épée, il y a, mm-hmm. il y a quelque chose de très simple et direct.
Oui, très direct.
Ouais.
Alors, il y a ces scènes, bien sûr, que vous partagez avec Ulysse. Il n'y en a pas tant que ça, puisque,
non,
bien sûr, ça met du temps. Ulysse revient, reconnaît pas Ithaque au début, puis comprend où il est. Et vous vous rencontrez, mais ni l'un ni l'autre ne parle. On ne sait pas si Pénélope l'a reconnu, en tout cas Ulysse ne dit rien. Là, c'est, voilà, c'est d'une intensité. Moi, je me suis dit, ça doit être un plaisir à jouer, non ?
Oui, ça, c'est vrai que quand il y a différentes strates, voilà. Il se passe différentes choses. En même temps, c'est très jouissif pour un acteur, parce qu'il y a... On est toujours dans une espèce de suspense, d'interrogation, et on se demande ce qui va se passer, et c'est dans le présent que ça se passe. Donc, on est à la fois spectateur et, oui. et acteur.
Ouais. Mmh. Et alors, en plus, donc, c'est avec Ralph Fiennes, c'est la troisième fois que vous jouiez ensemble, après Les Hauts de Hurlevent en 92, et évidemment le Patient Anglais en 96, qui, on le rappelle quand même, vous a valu un Oscar. C'est marrant, ces retrouvailles entre comédiens, et qui correspondent avec des retrouvailles de vos rôles, en fait. Ça, c'est pour un spectateur, c'est il y a une mise en abîme comme ça pour nous très agréable.
Et oui, et pour nous aussi. Ouais. C'est vrai que j'étais très émue de jouer en face de Rafe, et souvent je retenais mes larmes parce que j'ai trouvé ça tellement insensé qu'on soit à nouveau l'un en face de l'autre. Et puis ces scènes, elles sont très intenses, oui. finalement, parce que ils ne se rencontrent pas souvent, mais quand ils se rencontrent vraiment. Mm. Même s'ils ne se révèlent pas l'un à l'autre. Mm. Mais il y avait dans cette grande scène, qui est un peu la scène centrale de leur rencontre, cet amour fou, et à la fois qu'ils ne se déclarent pas, mm. et il y a aussi une rage. Chez moi, chez Pénélope, en tout cas, il y a une rage que... Pourquoi est-ce qu'il ne court pas ? Il va pas vers elle et lui dit voilà, ça y est, je suis retenue, faisons quelque chose ensemble pour essayer de changer la situation terrible sur l'île d'Ithac. Mais en fait, pas du tout. Il reste dans son coin, dans l'ombre, et elle comprend pas en fait pourquoi il ne se révèle pas. Mm-hmm. Et ça, à jouer, c'est génial parce ouais. que c'est des situations tellement fortes et qui ont traversé les temps. Aussi, ça fait 3000 ans que ce texte a été écrit, raconté, puisque ce sont des chants. Et il est même dit, d'ailleurs, que c'est pas forcément, enfin, c'est pas Homère qui l'aurait écrit, mais que c'était des histoires qui étaient racontées a cappella et qui, perduraient comme ça de village en village. Et on dit même que certaines femmes ont écrit certains chants. Enfin, bon, et oui, il y a toute une histoire. Ouais. Alors, je sais pas si c'est vrai ou pas. En tout cas, ça fait rêver. Et non, de savoir, d'incarner des personnages comme ça, qui sont mythiques, c'est à la fois ça donne une force, à la fois ça fait trembler aussi. Moi, c'est ce qui m'était arrivé quand j'avais joué Antigone de Sophocle. Uh-huh. Et là, je suis en train de répéter une pièce de théâtre avec Wajdi Mouawad, où on doit jouer à Épidaure. Et d'aller jouer à Épidaure, oui. et d'aller en Grèce jouer génial, à Épidaure avec Wajdi, qui est quand même le plus grec de tous nos metteurs en scène.
Pourquoi vous dites ça ?
Ben parce qu'il a une fascination pour Sophocle et Eschyle et Eurydice, etc. Et qu'il écrit des tragédies, là, il est en train d'écrire.
Alors, c'est le Serment d'Europa, c'est ça hein,
ouais, que le vous Serment jouez. D'Europa.
D'Europe, Serment ouais. d'Europe. Et c'est donc au théâtre antique d'Épidaure, dans le Péloponnèse. Vous avez déjà répété un peu là-bas ou pas encore ? Vous n'y êtes pas encore allé ?
Non, là, on est dans les sous-sols de la colline.
Non, c'est pas pareil.
De la colline.
ça va parler de quoi ? Vous pouvez nous en dire un petit mot ou c'est,
Je ne peux pas trop vous dire.
C'est le 1er 2 août hein, que vous êtes à Épidaure.
Oui, ouais, c'est ça. C'est une mère qui demande à ses filles de venir la voir et donc je vais pas trop raconter mais de toute façon il est en train d'écrire la pièce
on est encore en train d'écrire
oui et on est à 6 semaines des représentations donc on est un petit peu tendu mais bon il fait comme ça il écrit au fur et à mesure des répétitions c'est un peu flippant
c'est un peu votre retour au théâtre après pas mal d'années là ça fait un petit moment que vous n'êtes pas monté sur scène ouais. et c'est le théâtre c'est votre premier amour on va dire
oui mais ça l'est toujours
hein. c'est toujours
ouais.
Et je lisais que votre première pièce, celle que vous avez vue hein, en tant qu'enfant, vous aviez 14 ans, c'était Hubert Roy, c'est
oui,
ça, mis en scène par Peter Brook. Vous vous souvenez de l'émotion que vous avez ressentie ?
Tout à fait. C'est ça qui est génial, c'est que on a la capacité à revisiter des périodes de sa vie comme si c'était le présent. C'est ça qui est extraordinaire. Et en tant qu'acteur, on est tout le temps en train de faire ça. Finalement, à recréer la vie au moment présent, mmh. on est toujours en relation avec une partie en soi, de soi, qui est reliée à une mémoire.
Mmh. Et je me suis demandé si, en traversant le quatrième mur, c'est-à-dire de passer de spectatrice à comédienne sur scène, vous aviez retrouvé ces mêmes émotions. Est-ce que vous avez réussi à les reproduire?
Ce qui a été clair pour moi quand j'ai vu Biroy, c'est que ça m'avait donné une telle joie, un tel bonheur de comme spectatrice, que je me suis dit, si on peut donner ce bonheur-là en étant sur scène, c'est ce que je veux faire. Mmh. C'était clair, voilà, c'était clair. Et voilà, la suite est venue.
Et vous avez retrouvé le bonheur pour vous aussi de jouer sur scène.
Oui, alors c'est un drôle de bonheur parce qu'on passe par des phases assez difficiles aussi. Oui, comme acteur, il faut aller dans des zones qui sont souvent assez obscures, difficiles, noires. On travaille par rapport à des lieux qui sont assez durs, ça c'est vrai, hein. Mais à la fois de pouvoir les transformer en les donnant, ça donne une joie immense. En fait, la joie, elle est après. Mais au moment où il faut aller plonger, c'est-à-dire quand on est en tournage, par exemple, à 6h du matin, qu'on n'est pas encore très bien réveillé et qu'on sait qu'on doit passer par telle zone, tel machin, tel truc, une flopée de situations quand même assez désagréables, difficiles. On se dit, mais pourquoi est-ce que j'ai choisi ce métier-là? Mais finalement, le vrai bonheur, il est dans le partage. Il est de pouvoir raconter une histoire et de pouvoir se servir quelque part de ce qu'on connaît, de son expérience, et de pouvoir la partager.
Alors évidemment, quand c'est au théâtre, vous avez le partage direct. Là, il y a le public.
Ah oui.
Ça, c'est quand même très différent, j'imagine. Oui.
Ah oui, c'est extraordinaire. Mm. Ouais. Ouais. Mais à la fois, 10 ans après, on ne peut plus l'avoir.
Ouais, c'est ça.
Là, c'est le cinéma, alors.
Oh, ouais, c'est ça. Ouais. Et le cinéma, vous retrouvez les mêmes émotions que le théâtre?
Oui, un peu différemment, mais tout aussi fort. Mm-hmm. Oui, c'est tout aussi fort. C'est-à-dire qu'il y a la projection quand même au théâtre. Il faut projeter et pas perdre... en fait, son âme, pas perdre ses émotions en projetant. Parce que si on est trop technique, à ce moment-là, ça devient trop raide, trop mort. Mm-hmm. Mais comment faire passer les émotions avec la technique de la projection? Mm-hmm. Au cinéma, c'est difficile sur la longueur parce qu'il faut tenir toute une journée de tournage et parfois c'est long et les émotions quand il faut répéter, c'est éprouvant. Mais et puis sur une longueur de tournage au bout de 2 mois de répétition, mais on n'en peut plus quoi. Mais à la fois c'est tellement passionnant parce que c'est une équipe aussi, c'est un art collectif et d'échanges sur notre humanité ou notre manque d'humanité, mais c'est voilà, c'est un lieu de transformation.
Mmh. Et l'émission, on va dire du montage qui peut venir changer votre travail, comment vous le vivez en tant que...
Alors parfois pas bien, on me dit mais pourquoi est-ce que cette scène a disparu, c'est complètement fou. Mais parfois j'ai eu des surprises, une scène qui avait été utilisée pour un autre moment du film et ça avait bien fonctionné. Je pense aux patients anglais en l'occurrence.
Ah oui.
Ouais, mais non, c'est toujours la surprise du chef. On sait pas quand on va voir le film, ce qui est gardé, ce qui est pas gardé, puis quelle prise a été choisie. Ça m'est arrivé d'avoir des surprises, des bonnes comme des mauvaises.
Je me demandais quand on a eu, quand on a cette carrière au cinéma, au théâtre, et qu'on a eu tous ces grands réalisateurs, tous ces partenaires incroyables, tous ces prix aussi évidemment, hein, l'Ours, la Palme d'Or, les Oscars, les Césars. Est-ce que ça vous arrive de vous poser, de vous dire, ah, je rêverais d'avoir tel rôle, ou je rêverais de travailler avec telle personne? Est-ce que ça, c'est comme ça que vous vivez votre travail? Peut-être pas du tout.
Non, en fait, c'est plus mes rêves, j'ai envie de les créer moi.
Alors comment?
Alors, j'ai fait de la peinture, j'ai fait aussi de la danse, j'ai chanté aussi,
Là, j'ai mais c'est fini en tout ça, films. C'est en dehors. Ah, vous avez tourné des films, oui.
Ouais, j'ai fait 2 films. Et puis, je crois que c'est important d'être le... Voilà, d'être... de choisir ce qu'on... J'ai jamais attendu, en fait.
Ouais.
Et alors, peut-être que c'est de la chance, j'en sais rien, mais aussi les projets viennent et puis dire oui, dire non. Il faut vraiment être proche de son intuition et de ce qui est important sur le moment. Pas prendre c'est pas des choix à partir de valeurs calculs, extérieures. Oui. C'est vraiment se poser qu'est-ce qui est important, qu'est-ce que j'ai envie de traverser vraiment. Mmh. Intérieurement. Mmh. Et dans ces cas-là, on peut jamais se tromper, même si on s'est trompé.
Ah oui, c'est pas mal ça. Est-ce que vous avez des choses que vous ne voulez plus faire par ailleurs? C'est-à-dire vraiment, voilà, quand on a du métier en fait, se dire bon, ça je le referai plus, cette façon de travailler je la referai plus.
Non, je pense pas comme ça. C'est juste quand je lis un scénario et que soit c'est parce que le thème, j'ai déjà abordé le thème, donc j'ai pas envie d'y retourner, mais sinon, non, c'est toujours, il faut que ce soit nouveau à chaque fois, ça c'est vrai. Ça qui est l'idée d'explorer quelque chose de nouveau.
Mmh. Et je me disais aussi pour explorer quelque chose de nouveau dans votre expérience de comédienne, mais aussi dans votre travail, enfin votre jeu, il faut vivre des choses. Et c'est peut-être là aussi que le fait de faire de la peinture, le fait de faire vos propres films, d'avoir une vie en dehors qui soit riche, permet de nourrir votre travail de comédienne.
Oui, c'est sûr, mais à la fois, vous savez, quand vous avez des enfants, très vite, vous êtes dans la vie.
Vous êtes dans la vie, oui.
Oui, et puis vous avez des parents, et des parents qui vieillissent aussi, vous êtes dans la vie.
Ouais.
Et puis, tous les jours, vous êtes dans la vie. Mmh. Quand vous allez faire vos courses, quand vous allez, vous partez... alors, c'est vrai que j'aimerais avoir un petit peu plus de temps pour aller respirer dans la forêt, mais ça viendra peut-être un jour.
Quels sont vos projets? Vous avez un autre film aussi, Ella. Vous êtes bientôt à l'affiche d'un autre film.
Alors oui, j'ai fait un film qui s'appelle Queen at Sea. Je ne sais pas quelle sera la traduction en français. Avec un réalisateur, j'ai travaillé avec un réalisateur américain qui s'appelle Lance Hammer.
Mm-hmm.
Et... elle ne me dit pas quand est-ce que ça va sortir, je n'en sais rien.
D'accord,
encore.
Je ne dis pas ça.
Et puis je vais sans doute travailler avec un réalisateur turc.
Très bien.
Berkun Oya.
Merci beaucoup.
Merci.
Juliette Binoche d'être venue dans les midis de culture. Donc The Return, le retour d'Ulysse d'Uberto Pasolini, ça sort en salle dès demain. Et puis comme on l'a dit tout à l'heure, vous serez sur la scène du théâtre antique d'Épidore et ça c'est quand même une chance en Grèce.
Incroyable.
Sous la direction de Wajdi Mouawad pour le Serment d'Europe les 1er et 2 août prochains. Et nous, on va revenir à Pénélope. Pénélope de Georges Brassens mais chantée par Barbara.
Ah!
Toi l'épouse modèle, le grillon du foyer, toi qui n'as point d'accroc dans ta robe de mariée, toi l'intraitable Pénélope, en suivant ton petit bonhomme de bonheur, ne verses-tu jamais en tout bien, tout honneur, de jolies pensées interlopes, de jolies pensées interlopes. Derrière tes rideaux, dans ton juste milieu, en attendant le retour d'un Ulysse de banlieue, penché sur tes travaux de toile, les soirs de vague à l'âme et de mélancolie, n'as-tu jamais en rêve au ciel d'un autre lit, compter de nouvelles étoiles, compter de nouvelles étoiles. Tu jamais encore.
Les Midis de Culture, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir, Juliette Binoche.
Au revoir.
Merci beaucoup.
Merci.
Cette émission a été préparée par Zoé Coupé, Lise Ripoche, Tom Woodenstock, Boris Pinault, Oriane Delacroix, Aïssa Tundoy, Louis Cosnard et Zora Vigné. Elle est réalisée par Louise André avec Timothée Hubert à la technique.
Vous êtes bien sur France Culture.
Comment revendiquer son attachement à une langue et à une culture issue d'un pays que l'on rejette politiquement?
Marie Richeux.
Luba Jorgensen et Leonid Girchovitch ont fui l'Union soviétique dans les années 1970. À l'heure de l'invasion russe en Ukraine, ils engagent un dialogue sur leur histoire commune et s'interrogent sur ce qui les relie à la culture russophone. Luba Jorgensen est notre invitée.
Le Book Club, du lundi au vendredi à 15h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
France Culture, la Bibliothèque nationale de France et le Centre national du livre proposent « En lisant, en écrivant », un cycle de rencontres littéraires. Ce soir à 18h30, entrez dans les coulisses de la création avec Emily Boom, romancière camerounaise, reconnue pour ses récits puissants sur la mémoire, l'identité et les luttes féminines en Afrique. Une masterclass animée par Julie Gacon à la bibliothèque François Mitterrand à Paris. Entrée gratuite sur inscription. Plus d'infos, franceculture.fr.
On se retrouve demain à midi. En attendant, il est 13h30 et il est donc temps pour vous de retrouver Sonia Kronlund pour Les Pieds sur Terre.
Les Pieds sur Terre, Sonia Kronlund.
Ils sont en CM1 et CM2 à l'école Saint-Exupéry, dans le quartier populaire de La Madeleine, à Joigny, et au collège Marie-Noël, toujours à Joigny, dans l'Yonne. Ils sont en classe à horaire aménagé musique, à dominante voix. Ils font aussi partie de la maîtrise populaire menée par le maître de chœur Justin Bonnet depuis 2022. Ces enfants travaillent un répertoire de chansons traditionnelles françaises, élargies à d'autres traditions musicales. Le 8 mai dernier, ils ont interprété l'hymne à la joie, le chant des partisans et la Marseillaise devant le monument aux morts, applaudi par les élus locaux et notamment Julien Odoul, député RN de leur circonscription. En ce moment, ils répètent pour la fête de la musique et se produiront le 21 juin à la Cité de la Voix, au Centre National d'Art Vocal à Vézelay. Pauline Mocor, qui parcourt tous les chemins de Lyon pour Les Pieds sur Terre, les a rencontrés plusieurs fois avec le fameux Justin Bonnet. Mais au lieu de parler de la voix, de la musique, des humains, ce qui est vite apparu dans la conversation, c'est le vent dans les feuilles des arbres et le chant des oiseaux. Le sujet qu'ils ont abordé, donc, c'est plutôt la nature, la planète et l'écologie. Voici donc quelques-unes de leurs préoccupations, des perles d'enfants, mais pas seulement. Un reportage sur le fil où on décide de prendre la parole des enfants au sérieux et notamment leur regard sur les adultes par Pauline Mocor.
Oh, oh, oh.
Oh, oh, oh.
Hi, hi, hi. Plus aigu, plus aigu, plus aigu que moi. Voilà, beaucoup plus aigu que moi. Allez-y, allez-y, très haut, très haut, très haut.
Moi, j'aime bien la nature parce que déjà, j'habite à côté d'une forêt. Du coup, je vais souvent en forêt faire du vélo, de la marche, de la course. Et je trouve qu'il y a des endroits qui sont magnifiques, que tu vois les arbres fleuris au printemps. Et après, c'est vrai que la nature, ça se dégrade un peu, hein, avec toute la pollution. Je vois beaucoup de bouteilles d'eau aussi quand je fais du vélo. Et ça, c'est pas bien du tout. Un jour, j'ai pris un sac et j'ai tout ramassé pour les remettre dans une poubelle. Et là, quand j'y retourne à chaque fois, il y a de moins en moins de fleurs, il y a moins d'arbres.
Aussi, je vois des personnes qui laissent des bouteilles par terre. Ça, ça m'agace. Il y a un poubelle à côté d'eux, il ne met pas. Ça, il met pas. C'est bien le parc là-bas.
Ouais, ça va, ça va. Sauf quand je vois des personnes qui fument, après ils jettent leurs cigarettes comme ça, tranquille. Ça m'énerve, ça m'énerve. Moi, j'aime pas trop quand les adultes ou d'autres enfants nous reprennent en disant « Ah, faut protéger la nature ». Nous tous, on sait qu'il faut respecter la nature, mais au final, c'est pas ce qu'on fait tout le temps. Quand, par exemple, à l'école Saint-Ex, y a des jours où on a des sacs poubelles, des gants, on ramasse tous les déchets. Une semaine après, on en voit plein dans la cour, partout. Je me suis dit, donc le travail, il a servi à quelque chose ou il a servi à rien. Donc ça m'énerve.
J'ai eu la même chose. En fait, on avait une sortie pour ramasser toutes les poubelles en dehors de l'école. Deux jours après, il y a plein de déchets par terre. Ça casse la tête. Ça veut dire tout le travail pour rien.
Même des fois, il y a des adultes qui nous disent, faut pas jeter les déchets. Mais un jour, je suis sortie de l'école et tu vois, j'ai vu ma maîtresse devant. Elle a jeté un papier par terre. Alors que c'est elle, le jour J, elle nous avait dit ne jetez pas les déchets par terre, on avait ramassé et tout. Alors ça m'a mis en colère. Et du coup, elle est partie, mais c'est vrai que c'est énervant. En fait, j'ai l'impression qu'ils nous disent ça pour que nous, on protège la terre et que eux, ils la salissent et nous, on nettoie toujours tout. On est les enfants, ils doivent respecter la terre. Eh bah, vous aussi, vous devez respecter la terre, je sais pas moi. Vous, vous avez bien été enfant, non? Bah, respectez la terre aussi. Il y a même pas d'âge pour respecter la terre. T'as 50 ans, on s'en fiche, tu protèges la terre. Ils sont là, ils fument comme ça, après ils jettent leurs trucs comme ça. Non mais moi ça m'énerve en fait. Ils sont là, ah les enfants, protégez la terre, nous on est des adultes, on sait ce qu'on fait. Ah moi je vais aller donner des consignes aux petits CM2, je vais aller donner des consignes aux petits CP et tout. Bah non, on vous voit à la sortie de l'école, vous êtes là, vous jetez les trucs, non. Ceux qui sont vers la cinquantaine et qui jettent des trucs, moi je me dis c'est un peu des... Je sais pas pour être méchante, hein, mais un peu des foufous parce qu'ils ont eu de l'expérience quand même, non. Enfin, la terre, c'est pas que maintenant qu'elle se pollue et tout. Toi aussi, t'as déjà été un enfant, enfin, je sais pas moi. C'est pas toi qui vas donner la morale, enfin... Après, moi, j'ai l'impression, en fait, ils nous utilisent comme des marionnettes. Ils se disent, ah, c'est bon, ils sont assez bêtes dans leur tête pour savoir que, bah, faut protéger la planète, là. J'ai l'impression qu'ils nous utilisent pour faire genre que eux, ils sont bien au fond d'eux. Et après, c'est eux qui polluent la nature, en fait. J'ai l'impression qu'ils montrent leur vrai visage, ils jettent les trucs partout, tranquille. Faut juste pas que les enfants auxquels j'ai dit ne polluez pas la terre et qu'ils me voient. Moi, je pense qu'ils font ça pour me donner bonne confiance. Hein.
Je m'appelle Anaëlle, j'ai 10 ans et je suis au CM1. La nature, c'est important pour moi. Quand je suis triste, je me mets dans un coin et je pense à la forêt. Je vois des arbres, des fleurs, bah, ça me remonte le moral. La dernière fois que je suis allée en forêt, c'était en sortie de classe. Et c'était pour nous parler des oiseaux. Un moment après, on a fait un moment de silence pour entendre le chant des oiseaux. Parfois, quand ils ont besoin d'aide, ils communiquent en chantant. Parfois, mes parents, au lieu de parler, bah, ils chantent pour communiquer entre eux. Et ça me fait penser aux oiseaux. C'est des musiques traditionnelles, parfois, qu'ils écoutent. Et y a une chanson qui s'appelle Toutou Bovi. Et en fait, c'est une berceuse pour les bébés ou bien les petites personnes quand ils sont tristes ou bien quand ils sont fatigués. Toutou Bovi, à maman moula roya mais papa moula roya mais a o dje dje vigné bonou bonou bo
mais que poema palou via tout ne ma poena o a o dje dje vigné mba fa viu a o dje dje vigné.
Ça me fait penser aux oiseaux parce que quand ils chantent, bah, j'ai l'impression qu'ils chantent des berceuses. Parfois, j'ai envie d'être un oiseau parce que les oiseaux, ils sont plus heureux que les humains. Je crois pas qu'ils connaissent la colère et la tristesse. Quand mes parents se disputent, parfois, en fait, j'ai l'impression qu'ils vont se séparer. Donc c'est pour ça que j'aimerais être un oiseau. Et que j'aimerais être le soleil. Parce que le soleil, il éclaire ses amis. Par exemple, la terre, les fleurs, les arbres, bah, quand ils ont besoin de chaleur, bah, le soleil vient à leur rescousse. Et c'est pour ça que j'aimerais être le soleil. C'est pour que mes parents arrêtent de se disputer. Parfois, en fait, quand ils se disputent, bah, ils se disputent fort.
J'ai peur qu'ils se tapent ou bien qu'ils se séparent.
Moi j'aime trop la nature.
Moi la dernière fois j'ai donné un exemple que si on arrache une feuille, c'est comme si on m'arrachait un doigt.
Oh là là, l'exemple de fou. Si tu serais un élément de la nature, tu serais quoi?
Moi je serais l'arbre parce que c'est lui qui guérit l'atmosphère, qui fait en sorte que l'air soit bon, meilleur et que tout le monde peut respirer dans la bonne santé et que la nature soit encore plus belle grâce à eux.
Mais comment tu sais que ça peut donner de l'air aux autres personnes?
C'est scientifiquement prouvé, mais j'ai regardé sur internet. Les feuilles, normalement, ça fait en sorte que l'air soit bon, pur. Ça fait en sorte que tout le monde peut respirer, parce que si l'air elle est pas bonne, ça peut faire des problèmes, par exemple, aux poumons, à la respiration. Des fois, moi, je me mets près des arbres pour respirer. Ça fait du bien, ça me calme. Toutes ces fleurs, toute cette nature, ça te relâche, ça te calme, ça te fait sentir le bonheur de la nature. À côté, par exemple, il y a des pots de fleurs, il y avait des chenilles qui se transforment en papillons. Et il y avait les arbres et tout, je me calmais ici, je me détendais. Ça me faisait du bien parce que j'étais en colère, parce que j'avais une mauvaise note en maths. Ça m'a étonnée quand en fait que j'avais une mauvaise note parce que moi, je suis pas du genre à avoir des mauvaises notes, sans me vanter.
Il y a un champ au-dessus de chez moi. Une fois, on est parti dans ce champ avec ma sœur et mon frère. Et je crois qu'il y avait ma mère aussi. Et on avait entendu des bruits bizarres. Un cri d'animal ou un truc comme ça. Vers une sorte de forêt en haut. Après, notre mère, elle nous a bien dit de vraiment jamais y aller tout seul et surtout quand au coucher du soleil, parce qu'en fait, c'était un peu dangereux parce qu'il y avait des chasseurs, des trucs comme ça. Il y avait une rumeur. Et depuis, on n'est plus reparti là-bas.
Ça commençait à devenir un petit peu public parce qu'il y a tout le monde qui le disait. Toute mon école, toute ma classe, tous les gens que je connaissais. Ils disaient il y a des gens un peu bizarres, il y avait des gens qui disaient armés, il y avait des gens qui disaient chasseurs. C'était un petit peu le bazar. Des fois, il y a des gens qui ont peur de sortir dehors et ils peuvent pas profiter de la nature. Et des fois, c'est à cause des gens qui menacent des fois aussi.
Mais en fait, c'était pas des chasseurs. Ils disaient que c'était des gens fous, des trucs comme ça. Et c'est bien possible qu'il y ait des gens fous dans la forêt. Le problème des rumeurs, c'est que ça peut être faux et que ça peut gâcher la forêt. C'est des rumeurs fausses en plus.
Peut-être que c'est faux, peut-être que c'est vrai, on sait pas. Et si ça aurait été faux, moi je serais pas content parce que ça m'a fait perdre confiance en la forêt, quoi. Et ça me gêne. Peut-être, Cher et Selma, vous savez d'où ça venait?
En fait, ça venait de personnes. Je crois qu'ils étaient partis dans la forêt. Et après, ils ont dit voir des personnes bizarres. Ils se sont fait une course-poursuite, je sais pas quoi. Après, ils ont couru, mais surtout, ils ont dit qu'on peut les voir, mais le soir. Et en fait, des personnes qui sont grandes environ.
On ne sait pas exactement ce sont qui. Ce sont peut-être des racketteurs, je ne sais pas.
Je sais s'il y a des chasseurs ou pas. Oui, il y en avait parce qu'en fait, je suis déjà partie faire une balade avec mes amis et mon père. Parce qu'ils ont décidé d'aller vérifier si oui ou non il y avait un danger. Parce que mes parents, ils s'inquiétaient pour moi. Parce que quand j'avais 6 ans, 7 ans, des fois je partais dans la forêt. Alors mes parents, ils ont dit on va aller vérifier. Et donc après on est tous partis ensemble et voilà. Donc on avançait jusqu'à qu'on voit le chasseur. On l'a vu.
Du coup, t'as vu qui c'était?
Oui. En fait, le chasseur, il avait un jean bleu avec un sort de gilet où il peut ranger ses armes. Et il avait une grosse barbe et avec pas beaucoup de cheveux. J'ai sursauté de peur et
Je suis partie dans les bras de mes parents et mon père il a dit on fait pas de bruit. Et dès que le chasseur il a vu, on a commencé à courir parce qu'on savait pas quoi trop faire. Après le chasseur il a cru qu'on était des animaux, il a tiré. Et après ça, on a entendu bam, il y avait beaucoup de terre et il y avait de la poussière. Il nous a vu qu'on était des humains. Et après on s'est rapproché doucement et on a discuté.
Il s'est excusé.
Parce que quand même, oui, il s'est excusé, bien sûr, parce qu'il pouvait nous blesser, il pouvait...
Du coup, je trouve que c'est bête de le faire ça le soir. Enfin, parce que des fois, tu vois pas, par exemple, ce qui t'arrive.
Je pense que soit il avait une mauvaise vue, soit il voulait juste nous faire du mal.
Ah ouais, là, t'as vécu beaucoup de choses, toi. Hein.
Ah, moi, j'ai vécu. Hein. Et je pense qu'il était raciste. Hein. Parce que quand on faisait la discussion, il commençait à parler de racisme. Genre, il disait, comme vous êtes noir, comme il faisait nuit, on ne vous voyait pas trop, tout ça. On a cru que c'était des animaux, tout ça. Ça, c'est, on n'a pas réagi, mais j'ai trouvé ça très, très raciste. Mais j'étais pas très contente du comportement qu'il nous
ça, par
qu'il
contre,
a fait.
C'est vraiment très raciste quand même de dire que tu es noir, donc on ne peut pas te voir dans le noir. Mais c'est quand même vrai parfois. Si tu es dans le noir, c'est possible qu'on ne te voit pas. Et même une personne blanche dans le noir, on ne le voit pas en fait. Donc je ne sais pas quel est le rapport. Mais bon, pour lui peut-être c'est un rapport, donc il garde son rapport pour lui. Hein. Comment ça s'est terminé?
Bah en fait ça s'est terminé que il était vers 21h. Quand on est rentré chez nous, on était essoufflés, mais on comprenait pas qu'est-ce qui s'est passé. Et mes parents en fait, ils ont préféré oublier ça à place que ça dégénère parce que
c'est vrai que c'est mieux d'oublier.
Oui, c'est mieux d'oublier parce qu'après ça va créer trop de problèmes.
Tu préfères les animaux ou la nature?
Les animaux. Parce que les animaux, ils sont vivants. Ils bougent.
Les feuilles aussi, les arbres, la nature, elle est vivante.
Est-ce que t'as déjà entendu un arbre aboyer ou miauler?
Non, mais ils sont quand même vivants. C'est eux qui te permettent de survivre. On en a besoin, les animaux aussi. Il y en a de moins en moins d'arbres, de feuilles.
Mais en fait, quand tu coupes une feuille d'un arbre, c'est comme si tu tirais un cheveu.
Ah, ça fait mal, ça, hein?
Ils peuvent sentir exactement la même chose.
Est-ce que tu savais que dans les arbres, il y a de l'oxygène?
Oui, je sais. Aussi, il y a de la sève. Ils font de l'huile de palme avec, mais dans le Nutella, après, ils mettent. Et c'est pas bon pour notre santé et pour les arbres. C'est grave. Vu que tu utilises pour ça.
Oui, mais quand tu utilises un crayon comme celui-là, tu sais qu'il tue aussi des arbres. Hein. Enfin, le crevapier, c'est du bois. Et toi, tu dis que c'est pas bien d'utiliser trop de bois parce qu'il coupe des arbres. Mais tu sais que parfois, les gens, ils n'utilisent pas des arbres qui sont morts. Hein. Ils utilisent des arbres qui poussent toujours. Du coup, ça veut dire que tu gaspilles la nature. C'est pas bien. Hein.
Oui, mais c'est pour l'école. Toi aussi, tu en utilises. Tout le monde ici, il en utilise dans l'école.
J'ai pas d'écran papier. J'ai fait tous avec un stylo. Tu n'utilises pas d'arbre.
Non, t'as un crayon de papier.
Mais ça, c'est pour utiliser en géométrie. C'est maîtresse qui a dit qu'il faut un écran papier.
Notre maîtresse, elle nous dit. En sciences, cette année, on a travaillé sur l'électricité. On nous a dit qu'il ne faut pas allumer la lumière pour... rien. Et aussi éteindre le robinet quand t'as fini de te laver les mains.
Faut pas que je gaspille trop d'eau chaude aussi. Et voilà.
Mon père, il travaille dans une entreprise où on fait des bonbons. Du coup, chaque fois, il nous ramène des bonbons. Tout plein de bonbons. La dernière fois, il nous a ramené des têtes brûlées. Parfois, il nous ramène des schtroumpfs, des tagadas.
Est-ce que c'est écologique?
C'est pas écologique, les bonbons, mais c'est bon. Parfois, tu vois les salades, tout ça.
les tomates. Parfois, c'est pas écologique parce qu'ils utilisent des chauffants pour bien chauffer les serres parce qu'il fait pas beau en France. La dernière fois, j'ai vu que les tomates, c'est les tomates du Maroc qu'ils envoient. Et les tomates de France, sont plus chères que les tomates du Maroc parce que elles sont faites 100% France.
Alors toi, tes parents, ils achètent quoi ?
Moi, je mange surtout les bananes et les carottes râpées. Et je ne sais pas si c'est français ou pas. Du coup, moi, je ne prends pas les tomates et tout.
Mais est-ce que toi, tu prends des desserts ?
Oui, je prends des desserts.
Est-ce que tu aimes bien les dadettes ?
Oui.
Mais tu sais que parfois, les dadettes au chocolat, le chocolat, ce n'est pas français. Il fait dans d'autres pays, par exemple. La dernière fois, j'ai regardé sur mon pot de Nutella, ils ont dit « Origine du chocolat Côte d'Ivoire ».
Ah oui, et moi j'ai vu déjà une pub où ils m'ont dit que les Ferrero Rocher, le fruit qu'ils mettent dedans, il vient de la Côte d'Ivoire. Et cultivé sans trucs chimiques dedans. Parce que parfois, ils ajoutent des trucs chimiques dans les trucs sucrés.
Est-ce que toi, tu préfères les trucs pas bons et qui sont écologiques ou les trucs bons qui sont pas écologiques ?
Moi je vais prendre les trucs écologiques.
Même si c'est pas bon,
je m'en contenterai. Au moins, c'est écologique. Moi, mon père, est dans son jardin, il a des tomates, plein de légumes et fruits. Comme ça, on sait que c'est écologique.
Dans la classe, à chaque fois, Yabadi, on nous appelle les riches. Parce qu'on a un jardin, on a des balançoires. À chaque fois, ils nous appellent comme ça. Parfois, moi, ça m'énerve. Avant, moi, j'habitais dans un appartement. Je sais, ça fait quoi de ne pas avoir un jardin.
Mais c'est pas qu'on a une grande maison, qu'on est riche. C'est pas que je suis plus riche qu'eux. C'est que je suis comme tout le monde.
J'aime pas qu'on me traite de riche parce que je suis pas forcément riche. Moi, je dis quand t'es riche, c'est quand t'habites dans une villa au moins, quand t'as une piscine chez toi. Moi, j'ai pas de piscine, du coup, je trouve pas que je suis riche. Je suis normale comme une personne qui habite dans une maison avec un jardin.
Pourquoi ça t'embête qu'on te traite de riche ?
C'est comme si on se moquait de moi parce que je suis riche alors que c'est faux et ça m'énerve un petit peu.
Aussi parce qu'il y a une comparaison.
Oui, ils disent « je peux venir chez toi parce que t'as un grand jardin » et moi ça m'énerve parce qu'ils sont que là juste pour ma maison et mon grand jardin. Je m'en souviens, une fois, l'année dernière, ils faisaient que me demander s'ils pouvaient venir chez moi juste pour mon jardin et ma maison. Sinon, ils voulaient pas vraiment être amis avec moi. Je suis en colère et je suis triste parce que j'ai l'impression qu'ils m'utilisent juste pour revenir, pour jouer. Parce qu'en fait, moi, j'ai une salle de jeu en bas avec un jacuzzi. Et du coup, les gens, ils me traitent de riche pour ça, alors que, pas forcément, quoi. Du coup, moi, ça m'énerve. Parce que toi, t'as envie d'avoir des vrais amis. Du coup, c'est pour ça, moi, ça m'énerve qu'on me traite de riche. Moi, ma grand-sœur, un jour, elle m'a dit qu'il y avait des cyclones qui traversaient toute l'Amérique et ça allait venir en France. Elle disait que ça va être bientôt la fin du monde pour me faire peur. Du coup, moi, j'ai commencé à pleurer. Et vu que moi, parfois, je fais des crises d'angoisse, quand je fais des crises d'angoisse, j'arrive plus à respirer. J'ai dû prendre la Ventoline plus des médicaments parce que j'ai des médicaments contre les crises d'angoisse parce que j'avais peur de l'ouragan.
En 2050, il y a des gens qui ont dit le soleil va atterrir sur la Terre à cause du réchauffement climatique. Moi j'ai peur parce que imagine il s'écrase vraiment sur la Terre.
S'il s'écrase, il est grand et aussi il est très 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 chaud. Il peut brûler des gens. Je sais même pas si on peut s'enfuir.
Il y a des scientifiques qui sont en train de faire des recherches pour voir si on peut habiter sur Mars.
T'aimerais habiter sur Mars, toi ?
Non, parce que ce sera pas comme la Terre, ce sera tout rouge. Et moi, j'aime pas le rouge.
Et aussi, tu peux pas respirer sur Mars.
Ils sont en train de faire des recherches parce que Mars et la Terre, ça a été créé en même temps. Et si sur la Terre, il y a de l'oxygène, ils sont en train de faire des recherches s'ils peuvent envoyer un petit peu d'oxygène sur Mars.
Mais du coup, on a tout détruit sur la Terre. Tu veux recommencer sur Mars?
Bah non, mais bah, y a des scientifiques qui disent qu'on peut vivre. Mais si on veut vivre, bah, ce sera apparemment que les riches qui pourront vivre sur Mars. Et nous, on va rester sur la Terre. Et on pourra mourir.
Je pense que les pauvres, ils protègent mieux la nature puisqu'ils n'ont pas beaucoup d'argent et la nature pour eux c'est très très important.
Moi je dis qu'il faut arrêter les riches, il faut les arrêter, les mettre en prison et les pollueurs aussi parce qu'ils font du mal à notre planète. Parce que bah, ils achètent plein de bonbons par exemple et plein d'iPhone, tout ça, bah, ils polluent plus que nous. Surtout Elon Musk, il est trop méchant. Il veut créer des robots pour nous tuer. Oui, il est malade un petit peu.
Qui?
Elon Musk.
Voilà. C'est qui Elon Musk?
C'est un riche, un ingénieur.
Moi, je dis que si les riches, bah, ils vont sur Mars, bah, ils vont tout détruire encore. Et du coup, ce sera plus Mars qu'on va l'appeler peut-être.
J'ai une question à Jasmeva. Comment on va replanter les arbres, la nature sur Mars? Sans les arbres, sans la nature, on ne peut pas vraiment respirer.
Moi j'ai une idée, on fabrique une géante fusée, on prend plein d'arbres sur la Terre et on les met sur Mars, on les plante.
Comme l'Arche de Noé ou pas?
Bah oui.
Moi je m'inquiète. Parfois je me pose des questions. Est-ce que c'est vrai que le soleil va s'écraser sur la Terre? Comment on pourra faire pour survivre? Et la nature, est-ce qu'elle sera toujours protégée?
Moi aussi, des fois, je me pose des questions et je les garde pour moi parce que je réfléchis dans ma tête toute seule. Après, je m'endors je me repose des questions le lendemain. Mais après, je garde pour plus tard quand je serai grande. Bah du coup peut-être qu'on aura des enfants, du coup ils vont peut-être mourir quand le soleil il va s'écraser et du coup on n'aurait pas vu comment il aurait grandi. Parfois je fais des cauchemars, je suis maman, on est en 2050, on est en train de se balader, tout à coup je regarde le ciel, après je vois le soleil, il va s'écraser, j'essaye de protéger mon enfant, mais le soleil il s'écrase sur toute la Terre. Et du coup il n'y a plus personne sur la Terre, et après j'imagine la Terre en 2051, il y a des morts partout par terre, il y a d'autres humains qui sont arrivés sur la planète. Après, ils enterrent tous les morts dans la terre et après, ils disent de reposer en paix.
C'était « À quoi pensent les enfants de Joigny ?», un reportage de Pauline Mocor réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci aux enfants de la maîtrise populaire de Joigny, à Justin Bonnet, le maître de chœur, à Catherine Lebranchu, à Julien Vernet et à toute l'équipe pédagogique de l'école Saint-Exupéry de Joigny pour leur accueil chaleureux. L'attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Valentin Rémy et notre stagiaire, c'est Luce Mourant.
On a besoin de vous, nous allons sauver nos paysages, ceux qui disparaîtront peut-être dans quelques décennies.
Expérience Aurélie Charon.
Enregistrez-vous en message vocal, choisissez un lieu bien précis qui vous est cher, décrivez tous les détails que vous voyez, laissez libre cours à vos pensées et dites-nous où se situe le lieu, votre nom, votre prénom. Envoyez-nous le message vocal au 06 01 01 33 53.
La science, c'est QFD. C'est une heure quotidienne dédiée aux sciences à
toutes les sciences.
Natacha Triot.
Réchauffement climatique, pandémie, nouvelles technologies, nous sommes face à des défis scientifiques immenses. Elles nous concernent d'une façon ou d'une autre. Les sciences sont l'affaire de toutes et tous. Alors on articule science et société pour se saisir des enjeux d'aujourd'hui et de demain. Et puis la culture scientifique, c'est de la culture générale.
La science CQFD, du lundi au jeudi à 16h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Vous êtes bien sur France Culture, tout de suite, Aliette Ovin.
Merci Sonia, bienvenue à toutes et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode d'Entendez-vous l'écho. Et nous sommes mardi, et le mardi, vous le savez, c'est le lieu de l'écho et ça commence tout de suite.